dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour ce mercredi matin, à tous les mercredis. Simon Snake Boisvert de notre segment Habs Radio. Snake Boisvert du podcast Processus avec Mathias Brunet, commission athlétique ici à BPM Sport. Comment vas-tu, mon chum?
Ça va très bien. Et toi, Tony?
Mais moi, ça va très, très bien. T'as enregistré Processus hier, c'est sorti hier. Vous avez parlé de quoi exactement?
Ben surtout de Lane Hutson. Comme quoi, je l'avais échappé là dans mon évaluation à son sujet.
Oh, tu l'as dit, là, tu es sorti, tu t'as dit que tu l'as échappé.
Oui, je l'ai échappé.
Est-ce que...
Puis là, j'explique, quand ça prend une dizaine de minutes, là, puis là, j'explique qu'est-ce qui s'est passé, puis je remonte un petit peu au premier visionnement que j'avais eu de lui, puis je l'ai comparé à d'autres joueurs dans le passé que j'aimais beaucoup, puis que finalement, j'ai trop mis l'accent sur son physique.
OK. Premièrement, avant que tu sois plus loin, là, j'aimerais te féliciter parce que ça prend un homme ou quelqu'un qu'il n'y a pas d'insécurité pour dire « Écoute, je me suis trompé. » C'est correct. Parfait. J'aime ça. Parce qu'il y en a qui s'obstinent, même quand on voit déjà que c'est en train de passer. Puis là, il rentre dans un trou, puis il rentre plus profondément dans le trou, puis plus profondément dans le trou. Juste pour mettre la table, puis je ne vais pas faire ça, évidemment, pour te placer dans une mauvaise position. Non, mais, tu sais, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il est sur les réseaux sociaux, puis partout. C'était le 22 novembre. C'est ça? C'était le 22 novembre que tu étais là sur mon podcast. Moi, je tripais sur Lane Hutson, puis je t'ai parlé de lui, et, si tu me permets, tu as répondu ça.
Exceptional. What else?
As exceptional?
Yes.
I would say that's it. I just think, Tony, that a lot of people...
If he battles, he's going to tire himself out.
I just think that a lot of fans, including yourself, are making him to be this Norris Trophy, some sort of power defenseman.
He's a fantastic player.
Me, he's a gadget player. Okay, the New Orleans Saints, they have this quarterback, Taysom Hill, that they play sometimes. They give him all kinds of tricky plays and stuff. He's excellent at doing it. He's a weapon for the Saints. Once they give him the starting quarterback role,
yeah,
he's just an average player.
Okay, t'as dit que qu'est-ce qu'il faisait de l'excellent, Lane Hutson, c'est son
maniement de rondelle.
Maniement de rondelle. À part ça, tu ne voyais pas d'autres qualités.
Exceptionnel.
Tu as parlé de gadget player. Explique, si tu peux, le terme gadget player, c'est quoi? Et là, explique-moi tout le processus. Tu en as parlé, là, parce que tu as dit que ton évaluation, la première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu as vu, puis qu'est-ce que tu vois maintenant? Vas-y, je te donne la plateforme.
Ce qui est arrivé, c'est ça. Dans le processus, je l'explique en plus ample détail, mais je vais te donner quand même les grandes lignes. Premièrement, l'idée du gadget, c'est pas nécessairement péjoratif. Il y en a qui ont vu ça très, très, très négatif de ma part. Non, c'est juste qu'un gadget player, pour moi, c'est un joueur que tu dois utiliser qui a une certaine qualité exceptionnelle, que tu dois utiliser dans certaines situations, mais qui ne fait pas nécessairement partie d'un système de jeu pendant 60 minutes. OK, ça s'applique surtout au football, mais moi, je l'ai appliqué au hockey dans le sens que moi, je voyais Hudson comme un gars que tu utilises, premièrement, sur le jeu de puissance. Deuxièmement, tu l'utilises pas dans la dernière minute de jeu lorsque tu as une avance d'un but. Tu ne l'utilises pas à des avantages numériques et tu ne comptes pas sur lui quand le match devient robuste. Alors moi, je me disais, c'est le gars que tu utilises avec parcimonie. Tu le fais jouer un 15, 16, 17 minutes par match. Jamais contre les premiers trios, mais il a une qualité exceptionnelle avec la rondelle. Il fait des choses qu'on n'a jamais vues avant. Puis je te dis, ça fait 50 ans que je suis les joueurs juniors pour le hockey. Il fait des choses qu'on n'a jamais vues avant. Mais pour moi, c'était comme une arme secrète, plus qu'un joueur de première paire. Exemple comme un Cale Makar que tu vas espérer qu'année après année, il peut gagner le trophée Norris et transporter ton équipe. Ça, c'était ma définition de gadget player.
OK. Et là, explique-nous quand tu as vu Lane Hutson la première fois, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Et là, qu'est-ce que tu vois de lui aujourd'hui?
Bon, moi, je suis beaucoup le programme américain, le USNTDP, le programme de développement des joueurs, parce que il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui sont repêchés. On regroupe dans ce programme-là les meilleurs 16 et 17 ans aux États-Unis. On les fait jouer ensemble dans les USHL. Alors, c'est un véritable régal pour les recruteurs parce qu'ils sont en mesure d'analyser un paquet de joueurs dans la même équipe. Bon, Cole Caulfield jouait pour ce programme-là, par exemple, Jack Hughes, Matthew Boldy, enfin, plusieurs, Jack Eichel, plusieurs vedettes de la Ligue nationale. Et là, moi, quand j'ai vu Hudson, j'ai vu les mêmes choses qu'il fait en ce moment avec le Canadien. Puis je me suis dit, ben écoute, OK, ça marche dans la USHL. Le gars est vraiment minuscule. Est-ce que ça peut fonctionner à un niveau plus élevé? Puis là, il a quand même été repêché 62e. Comme j'explique dans le processus, je pourrais me servir de ça comme excuse. Je pourrais dire que le Canadien a repêché Philippe Méchard et Owen Beck avant que lui. Donc, s'il l'aimait tant que ça, pourquoi ils ne l'ont pas pris 26e à la place de Méchard? Je pourrais utiliser ces excuses-là, mais j'ai décidé de ne pas les utiliser. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je me fais toujours un honneur, une fierté d'essayer de trouver des joueurs, justement, que les équipes de la Ligue nationale ont sous-évalué. Donc, c'était à moi à le voir que les Notsun deviendraient ce qu'ils deviendraient. Ceci étant dit, quand je l'ai vu dans la Ligue nationale, j'ai revu les mêmes choses que dans USHL, mais il y avait une chose que j'ai fait quand je suis retourné la semaine dernière voir des matchs de Lane Hutson de 2021-2022, son année de repêchage. Et il y avait une chose que j'avais complètement omis, c'était sa ténacité. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. On l'a vu encore hier soir avec tous les jeux qu'il fait en zone défensive, malgré le fait qu'il est tout petit. Puis vendredi, lundi passé contre Vancouver, c'est ça qui m'a convaincu. Il s'est fait brasser par les Canucks. Puis malgré tout, il est allé chercher 3 points.
Mais tu t'en souviens au championnat du monde junior contre la Suède, là, tu sais, écoute, il a jeté les gants, là. Le kid, là, c'est tout un compétiteur. Et tu sais, moi, je respecte Corey Pronman, puis lui aussi, il s'est mouillé avec ses opinions sur sa liste des joueurs moins de 23 ans hier, là. Mais dire que la compétition, le niveau de compétition de Lane Hutson est moyen, là. Je m'excuse, là. Tu peux te tromper, mais dis-moi pas que le niveau de compétition de Lane Hutson est moyen. Je veux dire ça, Snake, parce que tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu dis que pour toi, tu veux essayer de trouver des joueurs que des équipes de la nationale y ont omis. Moi, si je peux te donner un conseil, si je peux me permettre, toi qui as beaucoup plus d'expérience comme dépisteur que moi, parce que je ne suis pas qualifié pour ça, même si j'ai pris des cours et j'ai un certificat en passant pour être dépisteur là, avec Sports Management Worldwide, moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu vois un joueur de petit gabarit, il faut vraiment que tu fais beaucoup, 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 beaucoup de devoirs sur lui parce que la plupart des équipes ne vont pas le regarder parce qu'il est petit. Donc, c'est une opportunité pour toi. Si toi, tu veux trouver des joueurs que des équipes ont émis, c'est une opportunité toujours pour le faire avec des joueurs à petit gabarit. Parce que la plupart des équipes ne vont pas le regarder. Pas seulement dans hockey, même dans le soccer. Là. Ah ouais, il est 5 pieds 10, c'est pas vrai, whatever. Même si le meilleur joueur de tous les temps, il fait 5 pieds 7, là, 5 pieds 6. Mm. Mais la plupart des équipes aujourd'hui là, recherchent le gars qui est gros, qui est fort, qui est vite, qui est this, qui est that.
Mais moi, Tony, je joue beaucoup les pourcentages puis les probabilités. Puis des gars de 5 pieds 6, 5 pieds 7 qui ont été bons dans le junior et qui n'ont pas percé, il y en a eu beaucoup. Tu sais, souviens-toi, il y en a un qui a joué un petit peu dans la Ligue nationale, Rocco Grimaldi. Rocco Grimaldi mesurait 5 pieds 6. C'était un véritable magicien avec la rondelle, mais il n'a pas percé non plus. Sauf, tu sais, oui, il faut essayer de trouver les joyaux que la Ligue nationale ignore, mais il ne faut quand même pas non plus omettre les probabilités puis arriver dans un repêchage puis dire, ben là, j'ai 7 choix, je vais prendre les 7 joueurs les plus talentueux de 5 pieds 9 et moins. Il faut faire attention avec ça aussi. Ceci étant dit, par le passé, où je suis allé contre mon instinct avec Lane Hutson, puis je vais conclure là-dessus, c'est que, souviens-toi de Victor Arvidsson.
Ouais.
Victor Arvidsson, en 2013, moi, je l'avais top 10. Il n'a même pas été repêché. En 2014, il est sorti en quatrième ronde. Là, tout le monde disait, il n'a pas un super coup de patin et il est tout petit. Mais moi, je disais, oui, mais regardez ses mains, c'est un magicien. Finalement, je suis en train de te décrire les notines, là. Puis, Beck et Young, moi, je me disais, la Ligue nationale, ils ne connaissent rien. Ils omettent de prendre Victor Arvidsson. quand Trevor Timmons avait dit à toi et à Mathias Brunet que Quinn Hughes serait pas bon défensivement dans la Ligue nationale et c'est pour ça qu'il ne prenait pas, ben j'avais traité Timmons de tous les noms. Et puis si on remonte 40 ans en arrière, Paul Coffey, qui faisait 100 points par année à la défense, tout le monde disait il vaut rien défensivement. Puis moi, je me disais, puis que ça fait, il fait 100 points. Alors, vois-tu, je suis allé contre mon instinct habituel, puis je m'en veux énormément parce que, tu sais, Hudson, c'est en train de devenir vraiment tout un joueur. Là.
Mais il faut dire aussi qu'on doit donner beaucoup de crédit à Martin St-Louis, puis même à Stéphane Robida, puis je m'explique. Premièrement, je trouve que les deux petits joueurs des Canadiens, là, Suzuki puis Caulfield, là, Caulfield puis Hudson, là, les deux plus petits joueurs des Canadiens, là, ils sont choyés d'avoir un entraîneur comme Martin St-Louis. Parce que lui, en étant un petit joueur qui est au temple de la renommée, qui a eu la carrière qu'il a eue, lui, il comprend leur réalité. Et il comprend c'est quoi quand un joueur, tu sais, on ne croit pas en lui parce qu'il a un petit gabarit. Puis, Martin St-Louis et un gars comme Robida, il donne beaucoup de lustre puis beaucoup de flexibilité à un gars comme Hudson. Moi, j'ai vu Hudson jouer des matchs cette année, là, qui étaient moins 4, là. Je m'en souviens de deux matchs qui étaient moins 4 dans les matchs, puis étaient lamentables défensivement. Ouais. Il y a plusieurs clubs, là, puis même peut-être Tortorella, qui aurait assis Lane Hudson au banc, qui l'aurait peut-être retanché ou mis sur la passerelle pour un match ou deux matchs ou peut-être trois, qui aurait peut-être tué sa confiance. Et Lane Hudson se trouve dans une équipe, puis joue pour un coach, puis un coach de défenseur qui leur permet de faire des erreurs. C'est quelque chose, là. Tu veux jouer un clip?
Tu as raison. On a un extrait de Martin St-Louis qui parle de Lane Hudson.
Mais je trouve pas qu'il joue comme une recrue, mais c'est sûr, tu sais, quand même, il s'adapte pareil à une ligue difficile, puis pas juste sur la glace, mais la cédule et tout. Mais c'est sûr, il nous donne du très bon hockey, puis tu sais, c'est pas juste offensivement, il est très engagé. Les joueurs élites sont capables de faire ça, sont capables de lire la situation, sont capables d'engager deux ou trois des autres joueurs de l'autre équipe, d'attirer tout le monde, puis faire ce jeu-là, tu sais, puis... C'est pas un. Il n'y a aucun risque qu'il prend dans ce jeu-là. Là. Il gère ce qu'il voit sur la glace, puis il joue au hockey. Lane joue au hockey. Il joue au hockey les deux bords de la glace. C'est pas comme si il sa patinoire dehors, là, puis il veut juste avoir des points. Là, on sait qu'il est capable de faire ça, mais il apprend à gérer les games, puis non, c'est un bon match pour lui ce soir.
T'as parlé, il y a plusieurs joueurs petits gabarits qui n'ont pas fait de la Ligue nationale, puis t'as raison. Par contre, quand j'y pense aux petits qui l'ont fait, là, Daniel Briard, là, il a joué 1000 matchs, là, il a eu des saisons de 30 buts à quelques reprises, là, il a presque 700 points. Jonathan Marchessault, là, il a fait la Ligue nationale, puis il a gagné le trophée Conn Smythe comme le meilleur joueur des séries, puis il a eu des saisons de 40 buts dans la Ligue nationale. Martin St-Louis, on vient de parler de lui, là, il est temple de la renommée, il était un des meilleurs joueurs dans la Ligue quand il jouait. Donc moi, je trouve que les joueurs qui réussissent à percer, il y en a plusieurs de petits joueurs qui vont avoir des grandes carrières puis vont aller à la Temple de la Renommée, c'est quelque chose. OK, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui ont raté ma dernière question il y a quelques minutes de ça, avec Snake Boisvert du podcast Processus, qui fait avec Mathias Brunet du journal La Presse, je te repose la question de nouveau. Il y a deux mois, on revient au 15 novembre, t'es un DG d'une équipe, t'es le DG des Canadiens de Montréal. Une autre équipe t'appelle puis t'offre un deuxième centre ou un troisième défenseur pour Lane Hudson. Est-ce que tu l'échanges?
Bon, la réponse est non, puis je vais te dire pourquoi. Je pense qu'Hudson avait quand même...
Tu l'aurais échangé, arrête.
Quoi?
Tu l'aurais échangé, arrête.
Oui, je l'aurais échangé, mais écoute ce que je vais te dire, là.
OK.
Je ne l'aurais pas échangé contre ce que tu me dis. Parce que premièrement, pour moi, je trouve que je pense que la valeur d'Hudson était plus élevée que ça. Et deuxièmement, moi, je ne veux pas d'un joueur dont une autre équipe ne veut plus. Par contre, je veux choisir mon joueur. Alors, si une équipe m'avait dit « Je te donne un choix top 5 pour les Hudson », ça, je l'aurais fait en courant.
OK. Tu T'aurais échangé des notes pour un choix top 5.
Ta question. Alors moi, je me dis, si je peux aller me chercher un Michael Mizah ou un joueur comme ça, un Caleb Desnoyers ou James Higgins, oui, c'est sûr que je l'aurais fait.
Donc, il y a deux mois, tu as dit la seule qualité qu'il y avait d'élite, c'était le maniement de rondelles.
Oui.
Et pour toi, c'était pas plus qu'un gadget player, mais tu l'aurais juste échangé pour un choix top 5, puis tu l'aurais pas échangé pour un deuxième joueur de centre ou un défenseur
numéro 1. Non, parce que j'ai l'impression que sa valeur était plus élevée que ça. T'sais, c'est un marché, ça, là, Tony. Là.
Okay.
Tu peux être moins chaud à l'idée d'un joueur, mais si les autres équipes le veulent. T'sais, si moi, quelqu'un m'offre un premier choix pour Jake Evans, là, je vais le prendre, mais pour moi, Jake Evans, ça ne vaut pas un premier choix. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends. Puis deux mois plus tard, 15 janvier 2025, aujourd'hui, une équipe qui est dans le bas de classement, qui vont peut-être finir 5, 6, 7e avant-dernier, t'appellent puis disent, je t'offre mon première ronde pour Lane Hutson. Tu dis quoi?
Trop risqué. Il faudrait que je sois garanti que je puisse aller chercher Matthew Shaver, James Higgins, peut-être Michael Mizah. Si tu me garantis un de ces deux-là, puis peut-être Mizah, là, oui.
Okay. Mais corrige-moi si j'ai tort, mais parce que toi, tu sais plus que moi, mais Higgins puis Shaver, ils vont sortir top 3.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que top 5, là, ça devient dangereux. Parce que si on arrive au cinquième choix, ou sixième, tu sais, même sixième choix, cinq, sixième choix, tu m'offres, tu sais, en ce moment, tu fais un échange, là, tu sais pas comment le boulier va marcher. Tu sais pas comment le classement de fin de saison va être. Tu sais, on a une bonne idée que ça va être Chicago, San Jose, probablement les deux derniers. Mais, tu sais, c'est dangereux de faire un échange comme ça quand tu connais pas l'ordre du repêchage.
Donc, toi qui es un gros fan de Caleb Desnoyers,
ouais. Je
change pas les notes pour lui, là.
Mais c'est trop risqué. Mais je suis un gros, gros fan de Caleb Desnoyers. Puis, si le Canadien baisse au classement, mettons qu'il repêche 7-8e, puis Desnoyers est encore là, c'est sûr que ça serait mon choix. Puis, je pense qu'éventuellement, ça pourrait devenir une vedette à Montréal. Mais ça demeure quand même il y a quand même un petit élément de risque par rapport à un défenseur. Tu sais, si Hudson était un ailier, je te dirais pas la même chose. Mais Hudson, c'est un défenseur. C'est un corps arrière. Un corps arrière, tu as besoin de ça pour gagner la Coupe Stanley. Tu as besoin d'un défenseur offensif numéro un, ce que le Canadien n'a pas eu vraiment depuis Piqué-Souban.
Qu'est-ce que tu penses maintenant, après avoir dit tout ça, et tu viens de changer d'opinion, tu viens de le dire sur processus, tu viens de le dire ici, aujourd'hui, dans le forum. Qu'est-ce que tu penses que Lane Hutson est capable de faire dans le futur?
Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il pourrait, parce que là, oublie pas, Demidov s'en vient. Michael Hage s'en vient. Tu sais, il y a deux attaquants là, qui vont vraiment changer le visage là, du Canadien dans les prochaines années, surtout Demidov. De la façon que ça se dessine, je pense que Lane Hutson pourrait avoir une production dans le genre de celle de Quinn Hughes. Parce que si tu remarques, Quinn Hughes, il ne marque pas beaucoup de buts, il y a beaucoup de passes. C'est un gars de quoi? 75, 80, 90 points, là, bon an, mal an. Alors, je pense qu'au point de vue production, ça pourrait ressembler à celle de Quinn Hughes. Là, je ne sais pas combien de minutes Hudson va pouvoir jouer. Tu sais, oublie pas, il y a toujours une question que tout le monde se pose en ce moment, tous les observateurs, tous les amateurs. Qu'est-ce que Hudson peut faire en série? Quinn Hughes, on a deux échantillons de lui en série très précis. En 2020, il a été très bon. En 2024, il n'a pas été très bon. Je te parle défensivement. Alors, tu sais, le jury délibère encore dans le cas de Quinn Hughes pour les séries. Est-ce que Hudson, j'ai hâte de le voir en série. T'sais, j'ai hâte de voir, parce que c'est définitivement un autre style de jeu. Mais je pense qu'il va quand même pouvoir tirer son épingle du jeu offensivement, parce qu'il est très... c'est pas évasif le mot, là, mais tu sais, il est capable de se démarquer des adversaires. Alors, tu sais, moi, pendant 40 matchs, je me suis dit, y a-tu quelqu'un qui va y rentrer dedans à un moment donné? Mais il n'y a personne vraiment qui y rentre dedans. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez unique chez lui, parce qu'habituellement, les défenseurs offensifs, justement, se font rentrer dedans pas mal avec l'échec avant. Puis lui, il trouve toujours le moyen de s'en sauver. Peut-être que c'est ça qu'il fait depuis qu'il joue au hockey, parce qu'il a probablement toujours été un des plus petits joueurs de son équipe, sinon le plus petit. Alors, c'est ça. C'est à peu près ça que je vois pour l'avenir pour Hutton.
sur le site punchinggrace.com. C'est un article de Régent Tremblay. Il est sorti hier, le 14 janvier. Mais qui est donc le Snake? Un article sur Simon Snake Boisvert. Excellent article. Si tu veux savoir un peu plus sur l'homme qui est Simon Boisvert, c'est qui le Snake? Parce que tu l'entends à BPM Sport ou tu l'entends à Processus, mais tu veux en savoir plus sur lui, le site de punchinggrace.com, c'est un article de Régent Tremblay. Mais qui est donc le Snake? C'est le titre. Va lire ça, c'est bien intéressant. Snake, c'était tenu debout comme un homme aujourd'hui, là.
Ben, j'espère. Ben j'espère, oui. Mais tu sais, Tony, je l'ai toujours fait pour les joueurs, ça. C'est juste que là, ça touche une corde plus sensible parce que c'est une vedette du Canadien. Mais il y a bien d'autres fois où je me suis complètement, je l'ai complètement échappé sur certains joueurs, tu sais, surtout ceux pour qui je voyais une belle carrière puis qui n'en ont pas eu une. Je le mentionnais tout le temps, mais je pense que dans le cas de Lane Hutson, c'est un sujet un petit peu plus sensible. Non?
Qu'est-ce que tu penses de l'article de Corey Priman dans l'Athletic, qui, lui, il fait une évaluation des joueurs moins de 23 ans, ouais, que ce soit dans la Ligue nationale ou pas, et au niveau des carrières qu'ils vont avoir, puis lui, Lane Hutson, 39e.
Oui, ben écoute, c'est difficile de faire des classements comme ça. Moi-même, si on me demandait de faire ça, je ne sais même pas si j'accepterais parce que c'est incroyablement difficile de départager le 12e gars du 22e gars, le 50e du 60e. Cependant, je vais dire une chose sur Pronman. Je pense que hier, l'article qu'il a publié sur beaucoup de joueurs, là, pas juste les joueurs du Canadien, puis pas juste sur Hudson, je pense qu'il s'est complètement fourvoyé dans bien des cas. Mais Pronman, en général, ça fait quoi, 10-15 ans que je le lis. Puis je te dirais qu'il n'est pas mauvais pour décrire les joueurs, mais pour les classer, il y a énormément de difficultés. Ces classements sont vraiment assez... Tu sais, quand tu les revisites là, des 5, 6, 7 ans plus tard, c'était vraiment des drôles de classements qu'ils faisaient. Alors hier, c'est du Pronman. Mettre Lane Hutson 39e avec certains gars qu'il a mis en avant, ça n'a aucun sens. Hutson aurait dû être dans le top 15 selon moi.
Pas plus que le top 15, c'est bon?
Ben, faudrait que je le regarde au complet, mais tu sais, il faut être honnête, là. Tu peux pas mettre un gars comme Hudson avant Celebrini, avant Tim Stutzla, avant.
Évidemment. Mais quand même une limite, là. Son top 3, là, c'est Celebrini 1, Stutzla 2, puis Bédard 3. T'es-tu d'accord avec ça?
Ben.
Moi, j'ai fait le saut, là.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Moi, j'ai pas de problème avec son top 3.
Ben, moi, j'aime mieux. Honnêtement, je vois Bédard avant Stutzla, là. On n'a jamais vanté Tim Stutzla comme on vante Connor Bedard, puis on ne reconnaît pas les mêmes qualités.
Mais Connor Bedard, c'était du marketing aussi. Là. Connor Bedard. Moi, j'avais dit l'année passée que je prendrais Celebrini avant Bedard, puis il y a beaucoup de monde qui m'avait complètement fustigé pour ça. Là. Mais Connor Bedard, il est bon, ça va être un super producteur de points. Mais, tu sais, il faut que tu regardes l'ensemble du jeu aussi. Puis de toute façon, à Chicago, c'est difficile à évaluer en ce moment parce qu'il est très, très mal entré. Alors, tu sais, 2-3-3-2, c'est un petit peu bonnet blanc, blanc bonnet, là.
C'est un détail, mais ça m'a tapé à l'œil. J'ai fait, je suis pas si sûr que ça.
Ouais, mais ça, fais le tour de tous les collaborateurs de BPM là, qui suivent la Ligue nationale, puis un peu les jeunes. Tu vas peut-être arriver avec un top 3 qui va être très différent.
Ça se peut très bien.
Tu sais, c'est ça. Fait que moi, je ne m'obstinerai pas trop là-dessus, mais si tu regardes les joueurs, prends-la la liste, là, puis fais-la bien objectivement, puis dis-toi que si tu étais un directeur gérant, OK, est-ce que tu donnerais un joueur X pour Lane Hutson? Puis fais-le bien objectivement. Moi, je pense que tu vas arriver top 15.
Qu'est-ce que tu veux dire, un joueur X?
Non, mais mettons, tu dis, est-ce que je donne Celebrini pour Hutson? Oui
ben
ou non?
Ben non.
Est-ce que je donne Bédard pour Hutson? Fais cet exercice-là objectivement en tenant pas compte qu'Hudson joue pour le Canadien puis que tu l'aimes beaucoup. Puis dis-toi, là, fais-le objectivement, tu vas arriver probablement top 15.
Je comprends.
C'est
une bonne question.
C'est intéressant, moi j'aime ça. Parce que ça nous force à réfléchir justement sur comment qu'on placerait nos joueurs puis qui on bougerait pour qui.
Oui, mais ça nous force à réfléchir, oui. Puis c'est une bonne question, oui. Mais les gars, je sais pas comment je peux te décrire ça, mais Lane Hutson a amené quelque chose aux Canadiens que les Canadiens n'ont pas eu depuis long, long, longtemps. Je comprends que Celebrini va être un vedette.
Mais je veux juste ajouter ça. C'est pas, en ce moment, je pense pas que cette discussion-là est par rapport aux Canadiens. Je pense plus qu'elle est vraiment par rapport au pas à ce que le joueur apporte à son équipe, mais par rapport à son talent brut. Puis oui, Hudson apporte énormément aux Canadiens, mais Hudson, à travers la Ligue, à travers n'importe quel joueur en bas de 23 oui, ans, moi, où est-ce qu'il se classe?
Mais moi, ce que je te dis, c'est que les partisans des Canadiens de Montréal, là, ils sont en amour avec Lane Hudson.
Oui.
OK? Faire un échange, là, piquer Subban chez Weber, là, si jamais tu fais un échange de Lane Hudson, même si tu t'en vas chercher un gros joueur, un gros attaquant d'une autre équipe, c'est comme... Je te dis pas que je prendrais pas un Macklin Celebrini ou un Connor Bedard, là, on s'entend là-dessus. Là. Mais je te dis là que moi, j'envisagerais même pas penser à échanger Lane Hudson. Comprends-tu?
C'est trop prometteur en ce moment. C'est sûr qu'on ne se voit pas faire
ça. Mais là, Tony, tu confonds deux choses.
Moi, je ne change pas d'avis parce que depuis que je l'ai vu, je ne l'ai jamais mis dans un échange. Jamais. Il y a des joueurs que tu n'échanges pas. Il est trop bon. Les partisans l'aiment trop. Il a the it factor. Il y a quelque chose de spécial là, que les autres n'ont pas.
Tony, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. On s'assigne sur la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de faire une liste. OK? Imagine-toi que Lane Hudson, là, il joue pour Columbus.
OK.
OK? Puis là, tu fais une liste. OK? Comme Corey Pronman a fait.
OK.
Alors, là on ne parle pas du hit factor. On ne parle pas de l'impact qu'il y a chez le CH. On ne parle pas des partisans qui l'adorent et qui achètent son chandail. Là. On parle de faire une liste.
OK.
Objective. Comme si, mettons,
oui.
tu étais partisan d'aucune équipe dans la Ligue.
OK.
Alors, fais l'exercice.
Oui.
Mets-toi dans la peau d'un autre directeur gérant, puis dis-toi, je suis le directeur gérant de San Jose. Est-ce que j'échange Celebrini pour Hudson? Oui ou non? Descends la liste, puis
okay,
à ce moment-là,
okay.
ça va donner le rang de Hudson.
Parfait. Donne-moi des noms. OK. Celebrini, est-ce que tu échanges Celebrini? Est-ce que tu échanges Hudson pour Celebrini? OK, peut-être. OK. Est-ce que oui, tu échanges Hudson pour Connor Bedard? OK, peut-être. OK, parfait. Oui. Mais donne-moi une liste. Tu parles d'une liste. Donne-moi une liste. Parce OK, Columbus, par exemple. OK? Columbus. Oui. Un jeune joueur, parce qu'on va prendre un jeune joueur, on va pas prendre un autre joueur, on va prendre un jeune joueur. Oui. Est-ce que tu échanges Lane Hudson pour Adam Fantilli, par exemple?
Non.
OK? Moi, la réponse est non, là.
Oui.
Est-ce que tu échanges Lane Hudson pour n'importe quel joueur des Bruins de Boston?
Non.
Non.
Non, puis ça, encore là, attention. Tu sais, il y a des joueurs là-dedans comme David Pasternak, c'est des super joueurs. C'est pas ce qu'on
dit. Oui, je comprends, mais...
On regarde l'âge.
Moi, je regarde l'âge et le salaire, exactement,
c'est
aussi.
Ça, l'âge, le salaire, l'impact. Là.
Oui, si le Canadien sera un David Pasternak de gagner la Coupe Stanley cette année, là... Comme oui. quand Dallas, ils ont échangé Jerome McGinley pour Joe Nwendyk, ils savaient qu'ils ont échangé un joueur qui allait avoir toute une carrière, mais ils se disaient qu'avec Nwendyk, on a peut-être des chances de gagner la Coupe. Puis ils l'ont fait. Puis les deux équipes ont gagné cette transaction-là parce que Calgary ont eu un joueur qui est rentré dans le temple de la renommée, puis Dallas ont eu un joueur qui les a aidés à gagner la Coupe Stanley.
Exactement.
OK, je sais pas, donne-moi des équipes, donne-moi des joueurs. T'as dit, tu vas me donner des joueurs. 15 joueurs.
Regarde, je regarde la liste, je m'en vais sur la liste de Pronman, OK?
Oui.
Je pense que c'est la meilleure façon
On va regarder la liste.
Parce que t'as une liste de joueurs de moins de 23 ans.
OK. Snake, merci d'être là. Parle-moi de cette liste de Corey Pronman, les joueurs que lui a sur sa liste, pour avoir une meilleure carrière, selon lui, avant Lane Hudson.
Bon, en passant, Tim Stutzla, c'est sa fête aujourd'hui, il y a 23 ans. Alors, est-ce qu'on l'inclut dans la liste ou pas?
OK, c'est une question intéressante. On va pas l'inclure parce qu'il y a 23 ans. David Reinbacher, il est où dans la liste?
Ah, il est beaucoup plus loin.
Je ne pense pas.
Pardon?
Il est beaucoup plus loin?
Oui, il est 51e.
Il est 51e, OK. J'étais juste curieux. OK, Caden Gooley est où?
Caden Gooley, je pense qu'il est encore plus loin.
OK.
Caden Gooley est 82.
OK. Parle-moi, est-ce que tu as la liste des défenseurs avant Lane Hudson? Des défenseurs.
Ceux qui sont avant des Hudson dans les défenseurs.
Ouais, ouais.
Oui, il s'agit simplement de descendre la liste. Il y a Luke Hughes qui est là.
OK.
OK. Il y a Jake Sanderson.
OK.
Ziv William.
OK.
Sam Dickinson. Okay. Owen Power.
OK.
Artem Levchunov. Brock Faber.
OK. OK, on va arrêter.
Carter Yakimchuk.
OK, on va arrêter parce que je vais vomir bientôt, OK? On va arrêter parce que je vais vomir bientôt, OK? Je vais dire quelque chose, là.
Oui.
Owen Power, il est sorti premier dans le repêchage.
Oui.
Owen Power, là, je ne l'échangerai jamais. Je n'échangerai jamais Lane Hudson contre Owen Power. Je m'en fous que le gars, il fait 7 pieds 10, puis l'autre, il fait 5 pieds 9, là. Je m'en fous. Je n'échangerai jamais Lane Hudson contre Owen Power. Puis, va dire une autre chose. Va dire une autre chose. Puis, écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien qu'est-ce que je vais dire, là. Si Jake Sanderson, que j'aime beaucoup, à l'âge de 20 ans, il a eu 32 points. Puis à l'âge de 21 ans, dans sa deuxième saison, il a eu 38 points. Puis Lane Hudson, il a déjà plus de points que Jake Sanderson a eu dans sa première année. Puis il lui reste encore un autre 39 matchs à jouer. There's no way que j'échangerais Lane Hudson contre Jake Sanderson. Je m'en fous que Jake Sanderson était repêché cinquième puis patine comme Disney on Ice, là. No way que j'échangerais Lane Hudson contre Jake Sanderson.
OK.
Tu commentais?
Moi, je te dirais, pour moi, c'est un... Ça serait à débattre.
Mais tout est à débattre dans la vie, là.
Jake Sanderson, offensivement, c'est pas un joueur étoile, OK? Cependant, il amène quand même beaucoup, beaucoup d'autres aspects de son jeu à la défense que tu ne peux pas négliger.
OK. Okay?
Alors, pour moi, ça serait à débattre.
OK. Donne-moi d'autres défenseurs, là.
Bon, Luke Hughes.
Excellent patineur. Si je ne me trompe pas, il était repêché quatrième. Ouais. C'est le frère de Quinn puis le frère de Jack. Puis, écoute, il y a potentiel pour être un grand défenseur dans l'air. OK. Ouais. OK, peut-être. Donne-moi d'autres noms.
Ziv William. Moi, je ne prends pas Bouillum avant Tine.
Non, on l'a vu en championnat du monde junior, puis je sais qu'il joue à l'Université de Denver, puis je sais que c'est un gagnant, mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je prendrais Bouillum avant Lane Hudson. Continue.
Moi non plus.
Est-ce qu'on s'entend que Lane Hudson, c'est le meilleur joueur de pêcher en 2022?
Je te dirais avec Logan Cooley. Il est solide, Logan Cooley. Là.
OK, c'est parfait. Là. Il est solide.
Oui. Bon, Sam Dickinson.
Oui.
Bon, je sais qu'au tournoi junior, il n'a pas été bon, là. Mais Sam Dickinson, lui aussi, tout comme Jake Sanderson, je te dirais que c'est à débattre entre Dickinson et Hudson. À débattre.
There's no way que Dickinson va faire dans la Ligue nationale qu'est-ce que Lane Hudson est en train de faire, là. Je sais qu'il a mis beaucoup de points avec les London Knights, là.
Ouais.
Un point par match pour un défenseur, c'est quelque chose. Puis il y a tout un lancer frappé. OK, donne-moi d'autres défenseurs.
Owen Power, on vient d'en parler.
Oublie ça, là.
Toi et moi, on se rejoint là-dessus.
Si je suis
le DG de Buffalo, là, je cours pour me débarrasser d'Owen Power le plus vite possible. Puis si quelqu'un veut l'avoir, là, puis qu'il m'offre un choix de première puis un espoir, mettons, en retour, je vais le mener à l'aéroport en courant.
Je vais. OK. Écoute-moi bien Écoute-moi bien qu'est-ce que je vais dire. Là, tu vas capoter, OK? Il y a environ un mois de ça, on parlait des échanges ici à BPM Sport. Puis un de mes collègues, que j'apprécie beaucoup, avait dit que il changerait Lane Hudson et Cole Caulfield pour Rasmus Dahlin. T'en souviens-tu de cette discussion-là?
Oui.
OK. Tu veux que je me mouille? Tu veux que je me mouille? Vraiment beaucoup, là?
Oui.
Moi, je te dis pas seulement que je ferais pas cette transaction-là. Moi, je changerais pas Hudson contre Dahlin. Oublie d'inclure Cole Caulfield.
Oui.
Moi, je changerais pas Hudson contre Dahlin. Est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens de te dire, là?
Moi, je l'ai entendu, puis ça quand même, là je peux pas être d'accord avec toi.
Je vais te dire pourquoi. OK, dis-moi Vas-y. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi avant. Ben, dis-moi pourquoi.
Ben parce que Dalin, il est encore très jeune.
Oui.
Et puis, il a quand même un bon contrat. Puis, c'est exactement le type de joueur. Tu sais, je suis pas le président du fan club de Dalin. Là. C'est pas ça que je te dis.
Okay.
Mais il reste quand même que, pour moi, sa combinaison de physique, de patin, de jeu offensif, défensif,
oui.
C'est un package, moi, que oui. Je ne pourrais pas passer à côté de lui.
Et moi, je ne te dis pas que Dalin n'est pas meilleur qu'Hudson. Mais moi, je vais répondre après la pause. OK, je me suis beaucoup mouillé et je vais juste te dire ça. Parce qu'il y a quelques minutes de ça, j'ai dit je ne changerai pas Lane Hudson un contre Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin a déjà été repêché premier overall. Là. C'est tout un défenseur. Tout ça, tout le monde le sait. Là, c'est tout un défenseur. Là. Puis c'est un défenseur complet. Puis il peut jouer 28-29 minutes par match. Puis il peut jouer contre les meilleurs attaquants. Puis c'est un différent genre de défenseur que Lane Hudson. Mais moi, je te dis que Lane Hudson, pour les raisons suivantes, il est 4 ans plus jeune que Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin gagne 11 millions de dollars par saison, puis Lane Hudson va signer pour plusieurs millions de dollars aussi, là, mais j'en doute qu'il va aller toucher le 11 millions. OK? Donc déjà là, tu vas avoir un joueur qui est 4 ans plus jeune, qui va gagner moins d'argent, qui déjà, on sait, il peut produire à Montréal. Déjà, on sait qu'il peut jouer à Montréal. Déjà, on sait comment il est tant aimé dans cette vestiaire-là. Déjà, on sait déjà la chimie qu'il y a avec ses coéquipiers. Déjà, on sait à quel point il est apprécié par tous les amateurs. Déjà, on sait que les Canadiens n'ont pas eu un joueur offensif à la défensive comme ça depuis je ne sais pas quand. Les partisans des Canadiens de Montréal, puis les joueurs des Canadiens de Montréal, puis le coach des Canadiens de Montréal, puis le DG des Canadiens de Montréal, puis le staff des Canadiens de Montréal, tout le monde est en amour avec Lane Hudson. T'échanges pas ça. C'est sûr que Dahlin, il est très complet, mais moi, je veux demander à Caden Gooley pour me donner le jeu défensif puis les mises en échec. Puis je vais demander à Lane Hudson de me donner le jeu offensif parce que même si Dahlin est allé chercher, me semble, 73 points dans une saison, Lane Hudson est meilleur offensivement que Rasmus Dahlin puis il a beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de plafond que Rasmus Dahlin. Ça, c'est mon opinion à moi. Puis je sais que peut-être la plupart des personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est correct. Le sport, c'est ça. C'est les opinions. Je respecte les opinions de tout le monde, comme je respecte les opinions de mon collègue qu'il a proposé dans un échange, mais j'ai une autre opinion. C'est tout. Snake?
Tu peux valoir des arguments qui tiennent la route, là. OK? L'histoire du contrat, de l'âge.
Mais je suis pas juste un bel face, moi.
Toi, après ça, t'as beaucoup l'impact dans la chambre et tout et tout. Ça, honnêtement, écoute, je te dis pas oui, je te dis pas non, je le sais pas. Moi, j'ai tendance à regarder ça de façon peut-être un petit peu plus cartésienne que toi.
Il nous reste 15 secondes.
Puis, tu sais, j'analyse ça comme... moi, j'analyse les notes comme s'ils jouaient pour Buffalo ou pour Chicago. Tu comprends?
Écoute,
toi, tu l'analyses peut-être plus avec tes yeux.
Ça fait un bel jasette. Je dois dire bye-bye parce qu'il reste 5 secondes. Ça fait un bel jasette. Je te remercie beaucoup de ton temps. Lara Gonzalez, on se parle demain.
Salut, Tony.